Oui, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette belle église pour donc cette intervention qui termine l'Assemblée générale des Amis de Chalais. Merci de votre invitation, merci de votre sens écuménique pour inviter un jésuite dans un lieu dominicain. Donc, première loi de présentation, vous l'avez compris, donc je suis jésuite. Présentement, je suis le rédacteur en chef de la revue Études, revue qui est lue et travaillée dans cette communauté, comme je l'ai appris hier. Et j'ai, parallèlement et antérieurement, j'enseigne la théologie au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, dans le champ, disons, de la théologie systématique, enfin, différents domaines de la théologie, du côté de la théologie fondamentale. Voilà. J'ai la création aussi, une question liée à l'écologie. Bon, voilà, je dis ça parce qu'il paraît qu'il y a un livre que j'ai fait qui est en vente à la sortie. Voilà pour quelques mots d'introduction. Et donc, j'ai été invité cet après-midi pour vous parler de l'encyclique Fratelli Tutti, d'introduire à la lecture, à la réflexion. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà... soit lu l'encyclique, soit lu des choses autour de l'encyclique, donc il y a des choses qui sont probablement des reprises d'éléments bien connus, mais une réflexion un peu large autour de ce document me paraît intéressant. Je suis compréhensible, ou moins audible, dans le fond. Ça va ? Voilà, donc cette encyclique est officiellement la troisième du pape François, c'est la deuxième écrite de sa main. La première avait été en bonne partie élaborée par son prédécesseur, bon, je laisse de côté, mais en tout cas, disons, elle couple, quand il est tout petit, couple de manière assez claire avec l'encyclique précédente, Laudate aussi. Et il le dit au début, du reste, que c'est un peu l'autre versant de Laudate aussi, texte bien connu, largement reçu, très commenté, très bien reçu du reste par l'opinion. Laudate aussi comportait une expression que le pape du reste empruntait à un théologien brésilien, Leonardo Boff, le cri de la terre et le cri des pauvres. On traduit encore le clameur de la terre et le clameur des pauvres. Et la nécessité d'entendre, de recevoir à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres. Alors, Laudate aussi, évidemment, était essentiellement à l'écoute du cri de la terre. Mais dès Laudate aussi, le pape prévenait qu'on ne pouvait pas séparer les deux aspects. Et écouter la terre, c'est écouter, je veux dire, une nouvelle forme de pauvreté qui est celle de notre environnement, celle des créatures qui, dans certains cas, souffrent de l'action humaine. Et Fratelli Tutti est plus du côté de l'écoute du cri des pauvres, la dimension plus explicitement sociale de cette ouverture, mais de cette audition, les deux étant, dans l'esprit du pape, intimement liés. Au sens où, comme je commençais à le dire, l'importance d'écouter la terre, c'est que une autre forme de pauvreté. Et bien sûr, l'écoute des pauvres fait partie, on peut dire, de la doctrine sociale de l'Église. C'est pas, il n'y a rien de très nouveau, finalement, dans le propos du pape à ce niveau-là. Le souci de l'écoute des pauvres, avec peut-être un point sur lequel je reviendrai parce qu'il est très caractéristique de sa manière de faire, pas simplement écouter les pauvres, mais leur donner la parole. Ou plutôt les écouter en vue de leur donner la parole. Et on peut dire que c'est un peu un des axes forts de son ministère et qu'on retrouve en particulier dans tous ses discours au mouvement populaire, des textes qui ne sont pas forcément très connus et qui sont importants à connaître. Dans ses discours au mouvement populaire, il insiste beaucoup sur le fait que ceux que l'on est porté à négliger, les exclus, c'est pas les très pauvres, handicapés, marginaux, toutes sortes. Bon. Tous ceux que l'on est porté à ne pas écouter, à négliger, eh bien, ce sont ceux qui sont peut-être les meilleurs porteurs de la parole de vie, de la parole de l'Évangile. En tout cas, tout l'enjeu, c'est de les écouter, c'est-à-dire de faire en sorte que ces personnes que l'on tendrait à voir comme passives, ou même simplement des objets de notre attention, deviennent des sujets. Voilà. Comment faire en sorte que les objets deviennent des sujets ? C'est que ceux qui sont passifs, ou ceux que on considère comme tels, eh bien, ont des choses à dire, ont des choses à apporter, une contribution à apporter à la vie commune. Alors, évidemment, tout ça résonne sur le fond des affaires que un récent rapport nous a révélées, c'est-à-dire comment, finalement, fait cette petite incise d'actualité, parce que ça me semble important, un des points que soulignait le rapport Sauvé, c'est comment, finalement, les victimes sont devenues des acteurs. Les victimes, celles qui étaient considérées comme des objets, en quelque sorte, malheureusement, d'emprise, et même qu'on pourrait considérer simplement comme des victimes, eh bien, comment les faire accéder à la catégorie d'acteurs, c'est-à-dire actifs, finalement, contribuant au débat commun. Donc, un des enjeux de ce texte, c'est précisément cela. Donc, encyclique qui fait le pont avec Laudato si, qui est un texte de synthèse de ses propos. Vous remarquez qu'il se citait beaucoup, je crois que c'est délibéré, il le dit au début du reste, hein. Il dit au début qu'il va faire la synthèse de tous ces textes antérieurs. C'est l'occasion de faire connaître des récits qui peut-être n'ont pas été beaucoup remarqués à l'époque. Peut-être que première bonne entrée en matière consiste à lire le premier paragraphe de cette encyclique qui dit finalement le projet du texte, le projet du pape. Fratelli tutti, donc écrivait saint François d'Assise, en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les frontières de la géographie et de l'espace. Un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Un amour qui surmonte les seuils, qui traverse les murs, c'est une image qu'il aime bien, qui aille plus loin que simplement l'immédiate que nous connaissons. Il déclare, donc c'est François d'Assise, il déclare heureux celui qui aime l'autre autant lorsqu'il serait loin de lui comme quand il serait avec lui. Le prochain, c'est celui qui est proche, justement, tant que celui qui est loin ne devient pas le prochain, quelque chose est manqué. En quelques mots simples, il exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Voilà. Donc c'est ça vraiment le programme de l'encyclique. Donc reconnaître, les trois verbes que je souligne ici, reconnaître, valoriser et aimer. Reconnaître ces personnes, les valoriser, c'est-à-dire les rendre vraiment acteurs, actives, et les aimer, l'amour étant ce qui donne la vie, l'amour étant ce qui donne le cœur même de l'existence. Ce que je voudrais souligner aussi, à titre d'introduction un peu développé, c'est que ce n'est pas un propos intemporel. Et comme souvent sur les textes du pape, il ne cherche pas tant à donner une doctrine permanente de l'Église qu'à raisonner, à réagir à l'actualité, aux circonstances. Je pense que c'est un point tout à fait important de sa manière de faire, que la parole chrétienne doit résonner dans les circonstances du moment. Et que parce que les circonstances du moment sont le lieu où Dieu se manifeste à nous. Dieu se manifeste à nous dans le moment présent, on parlait il y a, autour du concile des signes des temps, Dieu se manifeste à travers tous ces événements qui nous arrivent et dans lesquels on doit essayer de voir à l'œuvre son esprit. Alors, comment ? Ce n'est pas forcément évident, hein, parce que les circonstances peuvent être de toutes sortes, évidemment, et favorables ou défavorables, mais en tout cas, l'enjeu est d'essayer de percevoir à travers les circonstances comment l'Esprit de Dieu se manifeste. Donc, il y a toujours ce souci de raisonner à l'actualité. On va revenir sur ce point-là. Et en particulier, c'est le point qu'il relève dans l'actualité, un monde qui se fragmente. C'est ça qui le frappe, c'est le point qu'il relève parmi bien d'autres. Un monde qui se fragmente et donc l'enjeu de resserrer les liens, de resserrer la solidarité. Avec ce présupposé que le salut ne peut être que collectif. Voilà un point, et voilà où ça rejoint finalement, je dirais, la grande tradition chrétienne, le message quand même de l'Évangile, on pourrait dire, le salut ne peut être que collectif. On pourrait dire, nous sommes sauvés ensemble ou nous ne sommes pas sauvés. Voilà. Et ça, c'est important de souligner ce point-là parce que ça va à l'encontre de ce qui pourrait être une conception individualiste du salut, qui est quand même, il faut bien le connaître, encore pour une part répandue dans les esprits. Je fais mon salut, personne n'oserait dire comme ça aussi brutalement, je fais mon salut, mais en tout cas, cette idée que c'est ma vie personnelle finalement, bien sûr c'est important, ma relation personnelle à Dieu est importante, mais ma relation personnelle à Dieu est indissociable de la relation avec les autres personnes et aussi avec l'ensemble de la nature, mais ici précisément avec les autres personnes. Tant que je laisse des personnes en dehors de mon souci, en dehors de mes préoccupations, eh bien quelque chose est manqué. Voilà. Alors cette dimension, je veux dire, universelle du salut, évidemment, elle ne va pas de soi, non seulement au titre de tendance à une réduction individualiste, mais aussi tendance, mais est-ce que tout le monde sera sauvé ? La question, évidemment, que l'encyclique ne traite pas comme telle, mais qui occupe les esprits, bien sûr, depuis l'origine du christianisme, puisque le message chrétien est vraiment à une ambition universelle, à l'ambition de sauver non pas une petite communauté, à l'encontre du démarche sectaire. Qu'est-ce que démarche sectaire ? Ben, c'est de rassembler les personnes dans un petit groupe de sauvés, et les autres les abandonner finalement à leur triste sort. Ben, la démarche chrétienne consiste à l'inverse, à penser, à désirer, parce que c'est seulement une pensée, mais à désirer et à faire en sorte que c'est-à-dire le maximum, idéalement, toute l'humanité puisse être sauvée. Ce qui évidemment peut-être utopique si on veut, ou peut-être aussi abstrait à notre échelle, mais en tout cas, c'est un horizon qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut que se sauver ensemble. C'est le numéro 32 affirmé tout à fait clairement. Et ça, justement, c'est ce qui est mis en cause à toutes les époques, et en particulier lorsque la tendance au fractionnement, et ce sera sur ce point-là, on reviendra un peu, quelques exemples qu'il donne dans l'encyclique. Ce point-là, évidemment, dans ce contexte, évidemment, est important. Et la fraternité, on a une expression, la fraternité universelle, toutes les personnes sont frères et sœurs, c'est une manière d'exprimer précisément cette solidarité fondamentale. Alors on peut dire, est-ce que c'est un rêve ? Le mot de rêve revient à plusieurs reprises dès le début de l'encyclique. C'est un mot du reste qui était très central, très marquant dans l'exhortation sur l'Amazonie, Querida Amazonia, plusieurs rêves. C'est un mot que le pape aime bien. Un rêve, évidemment, ça pourrait paraître proche de l'utopie. Bon, un beau rêve. Mais un rêve, c'est aussi ce qui est présent dans nos désirs, finalement, dans nos aspirations. Et avant de dire c'est impossible, commençons par reconnaître que ça fait partie de nos désirs, que c'est que nous avons en nous-mêmes un désir de rassemblement, de solidarité, de cohérence, de fraternité, d'union, de communion, c'est quelque chose qui est en nous, dans nos désirs. Nous préférons être ensemble, bien nous entendre, que nous disputer. C'est évident, c'est pas la peine, pas une thèse qui est à démontrer. Même si, évidemment, dans nos existences et dans la vie de nos groupes et de nos nations, il y a des conflits, il y a des guerres, des oppositions, on le sait bien. Mais néanmoins, il y a toujours en nous ce désir de communion. Donc, le rêve est la traduction de ce désir. Et le rêve peut avoir une dimension dynamisante, c'est-à-dire que si l'on considère qu'il y a ce désir en nous et cet horizon, eh bien, c'est un moteur qui nous permet de mettre en œuvre cette communion, d'aller vers, de trouver les moyens, trouver les outils pour aller dans cette direction. Ce rêve peut réveiller des ressources en nous pour aller dans cette direction. Mais encore une fois, en dépit des obstacles, on pourra revenir dessus. Dernier point dans cette introduction qui donne un peu les principes généraux, si vous voulez, de l'encyclique, donc caractère universel du salut et dimension, oui, joue un désir personnel, c'est que ce qu'on pourrait appeler une anthropologie de relation. Le mot de relation est aussi très important dans la plume du pape. Une anthropologie de relation, c'est-à-dire que ce qui nous fait être nous-mêmes, ce sont les relations que nous avons avec d'autres instants, autrui, d'autres personnes, plus largement la création. Les relations, autrement dit, ce n'est pas seulement quelque chose qui se rajoute à notre identité, mais quelque chose qui appartient à notre identité même. Ce que nous sommes, d'abord, ce que nous sommes, nous l'avons reçu, nous l'avons reçu de nos parents, de nos éducateurs, des gens que nous avons rencontrés, que nous pouvons communiquer à notre tour, et que notre vie, finalement, est tissée de relations et que nous accédons finalement à notre être authentique, que nous accomplissons ce que nous sommes authentiquement à travers et grâce aux relations que nous avons, et pas simplement à ceux qui nous sont proches, mais aussi peut-être, même si c'est pareil, encore une fois, peut-être un peu utopique et lointain, même aussi auprès de ceux avec les instances qui nous sont plus lointaines. Il faudrait donner des exemples illustrés de ça, et chacun peut le faire aussi à partir de son propre itinéraire, mais pour être un exercice à faire de manière intéressante, personnellement ou en groupe, comment finalement toutes les relations, même parfois conflictuelles, dans lesquelles nous avons été ou nous sommes pris, comment toutes ces relations nous aident à devenir plus authentiquement nous-mêmes. Autrement dit, comment notre identité s'élabore, notre identité elle n'est pas donnée au point de départ, elle s'élabore dans le temps. Que sommes-nous? Que suis-je? Je ne pourrais le savoir qu'à la fin, finalement. Je peux me faire des représentations de moi-même, je peux m'imaginer tel ou tel personnage, mais ça c'est plutôt de l'ordre de l'imaginaire, ou de la représentation que je me donne, mais finalement qui suis-je en vérité? Et ça, parfois c'est les autres qui me le disent du reste, c'est ça aussi, mais c'est peut-être à la fin finalement que j'en prendrai vraiment conscience, c'est peut-être ça finalement la vie éternelle, c'est la révélation de ce que je suis en vérité. Tout cela se fait finalement, s'élabore au gré des relations que nous avons, qu'elles soient encore une fois de proximité, de difficulté, etc. Tout cet ensemble de relations, c'est ça qui nous permet d'être nous-mêmes. Est-ce que ceci est vrai à titre individuel? Ceci est vrai pour nous-mêmes et ceci est vrai aussi pour les groupes dans lesquels nous sommes. Je crois que c'est un point important, un peu annexe par rapport à ce texte, mais qui me paraît important quand même de souligner, c'est que la communauté chrétienne, elle aussi, découvre son identité dans la relation qu'elle a avec d'autres instances avec lesquelles elle se trouve en contact. Et je dirais que c'est le cas dès le début, on peut dire, du christianisme. Même la théologie chrétienne s'est élaborée en relation avec d'autres écoles de pensée d'autres réflexions sur l'homme, sur le monde, même parfois au gré de confrontation, de conflit, mais c'est à travers ces relations, pensons à la pensée grecque, pensons plus tard à la pensée musulmane, pensons bien sûr évidemment au judaïsme ou à d'autres, ou même aujourd'hui à des formes d'incroyance, c'est à travers toutes ces relations que finalement s'élabore progressivement la pensée chrétienne. Ça ne s'élabore pas à partir de principes théoriques, intemporels, mais à partir justement de toutes ces relations. Donc cette dimension relationnelle, hein, comme selon l'expression du pape, tout est lié, hein, l'expression qui venait souvent dans Laudato Si, c'est vraiment cette dimension relationnelle de l'existence, cette anthropologie de relation qui est à l'arrière-plan, un peu au niveau des principes de la démarche de l'encyclique. C'est ce que le pape appelle aussi la culture de la rencontre. Comment développer une culture de la rencontre? Et ça, encore une fois, non pas, il ne s'agit pas d'abord, même si ce n'est pas incompatible, évidemment, d'annoncer l'Évangile, parce que souvent, on conçoit la rencontre comme étant des occasions de témoigner de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile comme des lieux missionnaires. Oui, très bien, mais c'est d'abord la rencontre, au sens le plus élémentaire du terme, la rencontre qui nous enrichit mutuellement. Comment la rencontre nous enrichit mutuellement et comment développer finalement toutes ces rencontres. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, voilà un petit peu les comme porte d'entrée, quelques principes introductifs que l'on va reprendre finalement. L'encyclique ne fait que reprendre un peu tous ces éléments-là avec des exemples particuliers sur des lieux différents, des notions différentes, mais ce sont tous ces éléments qui sont repris. D'une manière, enfin, pour bien, le texte est un petit peu long et parfois un peu sinueux. Alors, c'est que plusieurs personnes qui l'ont lu m'ont dit, voilà, c'est un peu rasoir. Bon, c'est vrai, j'ai passé au début pour vous décourager, mais c'est vrai que le texte m'a paru aussi un peu sinueux. Bon, encore une fois, c'est peut-être aussi le besoin de revenir sur les mêmes idées, pas forcément immédiatement, la structure du texte, les enchaînements des différents paragraphes, mais bon, c'est un point, je veux dire, stylistique secondaire. Le point important, c'est de repérer quels sont vraiment les nœuds du propos et quels sont les points principaux à retenir. On peut dire qu'il y a cinq temps, il y a cinq moments dans le développement du propos de l'encyclique. Un premier moment, c'est un diagnostic du moment présent. On fait déjà un peu allusion à ça, je vais y revenir. Diagnostic du moment présent. Voilà. Écouter, se mettre à l'écoute du moment présent, comme dans la Laudato Si, du reste. Hein. Avant même d'écouter la parole de Dieu, ce sera le deuxième moment, hein, la parabole du bon samaritain, avant même d'écouter la parole de Dieu, on écoute le monde contemporain. Alors, évidemment, l'écoute, elle est toujours, il n'y a pas d'écoute absolument neutre, hein. L'écoute est toujours marquée par des préoccupations, par des soucis particuliers. Mais enfin, il y a quand même se mettre à l'écoute du moment présent. C'est le premier temps. Ensuite, bien sûr, se mettre à l'écoute de l'Écriture, c'est comme dans la Laudato Si. On retrouve cette dialectique. Donc ce sera le deuxième moment, à travers la parabole du bon samaritain. Et puis, troisième temps, un peu le temps principal, quelle leçon on en tire finalement, c'est cette culture de la rencontre, cette anthropologie de relations, comment on peut se laisser enrichir par autrui. Un quatrième moment, je trouve, et ça ne correspond pas tout à fait au chapitre, mais peu importe, hein, un quatrième moment est centré autour des deux notions de dialogue et de pardon, hein, qui sont deux notions très intimement associées à la rencontre, à la relation. Hein, le dialogue, la relation sous forme de parole, le pardon, lorsque la relation a été perturbée, comment réconcilier, comment rétablir la relation. Dialogue et pardon. Et puis un cinquième moment qui est plus théologique, si on veut, la source transcendante de la fraternité. Il y a pas, c'est un texte, certains ont trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de théologie dans ce texte. Oui, mais je pense que c'est délibéré. C'est un texte qui veut s'adresser à un lectorat le plus large possible. Donc il peut être sensible à la parabole du bon samaritain, mais de ne pas immédiatement employer des références théologiques qui, restreindraient la réception du propos uniquement à la communauté de ceux qui sont déjà initiés à ce discours. Mais néanmoins, il est important quand même qu'à la fin, la référence soit faite à la source commune de la fraternité, la paternité divine. Sinon, évidemment, la notion de fraternité reste un peu flottante. Alors, si l'on regarde le diagnostic donc, du temps présent, tout à l'heure, il insiste sur les fractures, sur le fractionnement du monde. Il est plutôt sombre. Laudato si est un diagnostic moins sombre. Il y avait des menaces, bien sûr, sur la planète. Mais là, le pape, effectivement, porte un regard assez noir. Il dit, je cite là au numéro 11, « L'histoire est en train de donner des signes de recul. Voilà. » Il observe donc la tendance aux fermetures, la montée des inégalités. Bon, évidemment, il n'est pas le seul à porter ce genre de regard et diagnostic sur l'époque présente. Bien des analystes le font aussi, où les intérêts individuels l'emportent sur le bien commun. Et donc, par contraste avec ce qui pouvait être dans les années 50, 60, après la guerre, évidemment, l'après-Seconde Guerre mondiale a entraîné un mouvement de rapprochement. Bon, construction européenne, Nations Unies, il y avait à ce moment-là une tendance forte au rapprochement, une tendance qu'on a retrouvée après 89, après la chute du mur de Berlin, après la fin de la chute du rideau de fer. Cette idée justement d'une réconciliation, voilà, le monde est réconcilié, certains annonçaient la fin de l'histoire, enfin, c'est l'histoire et celle des conflits, eh bien, on est justement au-delà de ça, on est dans l'ère de la réconciliation. C'est vrai que, bon, il y avait une part évidemment d'illusion, comme dans les années d'après-guerre, il y avait une part d'illusion à imaginer que le monde était complètement réconcilié. Bien sûr, il ne l'est jamais complètement, mais on voit aujourd'hui, de nouveau, c'est pas la peine de faire un tableau détaillé, mais on voit de nouveau remonter à l'horizon des conflits, des affirmations de puissance, au détriment d'autres. Évidemment, dès qu'il y a affirmation de puissance, il y a toujours une déclivité qui s'opère, il y a des forts et des faibles. Si les forts émergent, bien, par contraste, il y aura des faibles qui craignent d'être soumis aux forts, et les forts qui veulent exercer leur, comme dit l'évangile du jour, les puissants font sortir leur pouvoir, ça c'est, je dirais, c'est de. C'est bien, ça relève du bien connu. Et donc, cette tendance dans le monde à accentuer les clivages et les inégalités, c'est cet élément de diagnostic qu'il relève. Il associe ça aussi à la mondialisation ou à la globalisation. La globalisation en tant qu'elle peut être nivelante. Parce que justement, ça c'est un autre point, peut-être on pourra revenir dessus. Pour le pape, la communion, l'horizon de communion, n'est pas du tout uniformisation. Pour lui, la communion n'est pas quelque chose d'uniforme. Même si les communautés religieuses ont le même costume, ça ne veut pas dire que, justement, qu'il y a de l'uniformité dans la communauté. Attention. Qui dit communion ne dit pas uniformité. C'est l'image du polyèdre qu'aime bien prendre le pape. C'est-à-dire, il n'y a de vraie communion, et là encore, les communautés religieuses peuvent en témoigner, je peux en témoigner, il n'y a de vraie communion que dans la diversité des personnes. Mais diversité acceptée, reconnue, voilà. Mais avec aussi des conflits, bien sûr, parce que qui dit diversité dit conflit potentiel. Mais il n'y a de vraie communion que dans cette diversité. Donc, une tendance de la globalisation, de la mondialisation culturelle, c'est précisément l'uniformisation. La culture Coca-Cola, où finalement tout le monde s'habille de la même façon et tout le monde écoute les mêmes chansons. Alors, à un niveau, c'est pas trop dramatique, mais il y aurait le risque que disparaissent finalement des éléments culturels moins puissants, qui soient absorbés par les autres et par l'américanisation. Bon, pour entrer dans ces débats, il faudrait regarder plus en détail, mais en tout cas, cette tendance uniformisante qu'on voit un petit peu partout, eh bien, ne peut que susciter précisément du ressentiment de la part de cultures qui se sentent méprisées. On sait à quel point le pape apprécie, et dans le Querida Amazonia c'est très clair, prend la défense des cultures autochtones, des cultures locales, bon, on appelle indigènes, aujourd'hui autochtones, des cultures minoritaires qui sont menacées par les cultures dominantes. La défense des cultures minoritaires est pour lui quelque chose de très important. Parce que précisément, c'est un maintien, non pas seulement de la biodiversité, mais de la diversité culturelle, et qu'il n'y a, il ne peut y avoir de communion authentique que dans la reconnaissance de la diversité culturelle. Voilà. Donc, la critique de la mondialisation culturelle fait partie de ce diagnostic, parce que c'est potentiellement, là aussi, source de conflit. Et évidemment, le texte a été terminé au moment où commençait la pandémie de Covid-19, il souligne davantage dans cette pandémie la tendance au repli, bon, qu'on a pu observer effectivement dans certains pays, c'était un peu chacun pour soi. Bon, il ne faudrait pas ignorer non plus tout ce qui s'est manifesté en termes de solidarité, là, ce qui revient un peu à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire au désir finalement de communion. On a pu voir à titre individuel ou collectif, au moins dans les premiers temps, encore une fois après, mais ça m'a frappé dans les premiers temps, premiers mois de la pandémie, des manifestations de solidarité entre voisins, entre groupes, etc. Donc il y a eu de la solidarité, s'est manifestée. Mais enfin, voilà. Bon, en tout cas, ce que retient le pape ici, c'est la menace, grave, dangereuse, enfin la menace de fragmentation. Je relève cette phrase, je vais arrêter là-dessus, au numéro 33, « Nous sommes gavés de connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. » Les connexions, c'est aussi la mondialisation, c'est Internet. Nous sommes connectés, c'est ça aussi la mondialisation, nous sommes connectés au monde entier, nous sommes saturés de connexions, mais est-ce que c'est ça qui nous permet d'aller vers plus de fraternité? Ça n'est pas sûr. On risque de perdre le goût de la fraternité. Donc, premier temps, donc diagnostic du moment présent, donc plutôt sombre et soulignant les murs qui se construisent, les frontières qui se ferment à nouveau. Et bon, pas encore parlé de la question migratoire, mais on pourra évidemment revenir un peu là-dessus, parce que c'est un point qui revient plus tard dans le texte. Toutes ces frontières, tous ces murs qu'on a vus ressortir de terre, et ces frontières qu'on a vues se renforcer, en particulier à l'égard du phénomène migratoire. De deuxième temps, c'est donc la lecture d'un texte biblique qui est la parabole bien connue du bon samaritain. Voilà. Le texte est bien connu, il n'est pas la peine de le relire, mais ce sur quoi je voudrais insister dans ce texte, c'est que il donne moins immédiatement des principes d'action que de susciter une émotion en nous. Parce que qu'est-ce qui est le moteur finalement de l'action du Samaritain? C'est qu'il a été pris aux entrailles. Voilà. Alors, si je souligne ce point-là, c'est que le prêtre et le lévite, vous connaissez l'histoire, le prêtre et le lévite se détournent, enfin, passent leur chemin, et ne vont pas s'occuper du blessé qui est sur le bord de la route. Alors, on pourrait dire, mais oui, mais en fait, c'est la loi qui, surtout s'ils vont au temple, s'ils vont vers le temple, la loi leur interdit de s'approcher du sang ou d'un cadavre, s'ils veulent être gardés la pureté pour le sacrifice. Donc, c'est la loi qui leur interdit, c'est pas qu'ils soient forcément inhumains, même si parfois le commentaire du pape laisse entendre, mais à la limite, on pourrait avoir cette interprétation-là, c'est pas tellement qu'ils soient inhumains, parce que les prêtres sont inhumains, j'espère que tous ne le sont pas, non, parce qu'ils sont inhumains, qui ne s'intéressent pas aux blessés, c'est que, voilà, la loi, à la limite, les empêche ou les freine. Le Samaritain, qu'est-ce qui lui arrive? Il est pris aux entrailles. C'est-à-dire quelque chose qui traverse, on peut dire, la couche des principes. Et ça, je trouve intéressant comme lieu de réflexion. Finalement, c'est comme si cette sorte de situation d'urgence qui fait que, tout à fait cessante, on ne peut pas ne pas s'en occuper. Même si il y a des bonnes raisons. Voilà, j'ai un rendez-vous urgent, je dois m'occuper de quelqu'un, j'ai un empêchement, etc. Bon. Eh bien non, là, il y a quelque chose qui Oui, de l'ordre de l'émotion. Alors, pas de l'émotion superficielle, évidemment. Le mot émotion, aujourd'hui, est employé un peu facilement pour tout et pour rien. C'est pas l'émotion superficielle, c'est vraiment, oui, quelque chose qui le prend aux entrailles, qui le remue dans la profondeur, qui va au-delà de tout raisonnement. Voilà. Ça nous arrive de temps en temps, on est porté à faire quelque chose, même si c'est déraisonnable. Hein, a posteriori, en réfléchissant, pourquoi j'ai fait ça? C'était pas raisonnable de le faire, mais parce que, hein, se jeter à l'eau pour sauver quelqu'un, voilà, parce que immédiatement, je veux dire, ça court-circuite la rationalité. Hein, c'est vraiment, oui, ce sont les entrailles qui sont remuées. C'est une expression qu'on voit souvent dans l'Évangile, enfin plusieurs fois dans l'Évangile. Hein. Il ne peut pas, voilà, on ne peut pas faire autrement. Et donc, c'est cette ça rejoint encore une fois cette aspiration profonde à la solidarité humaine. Je pense à une histoire qui est racontée par Vassili Grossman dans son très beau roman Vie et Destin, donc qui se passe à Stalingrad au moment de la reprise de Stalingrad par les troupes, par l'armée rouge, les troupes soviétiques. Donc l'armée allemande est défaite, et les prisonniers allemands. Les soldats allemands sont faits prisonniers. Évidemment, vous pouvez imaginer ce que ressent la population russe quand elle voit passer les prisonniers allemands, hein, qui étaient pendant des mois victimes à la fois des bombardements, de la violence, d'exactions diverses, etc. Vous pouvez imaginer tout le ressentiment qu'elle ressent à l'égard de ces prisonniers. Et alors, Vassili Grossman s'arrête sur le geste qu'il a dû voir probablement d'une vieille femme russe qui donne un morceau de pain à un soldat allemand. Alors que lui n'avait rien. Enfin, les Russes, non seulement, ils avaient subi toute cette violence, mais en plus, ils avaient tout perdu. Enfin, leur maison était détruite. Ils avaient à peine de quoi manger. Et pourtant, voyant ce soldat allemand abandonné, elle lui donne un morceau de pain. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de plus que simplement le ressentiment, même simplement la justice. On pourrait dire, c'est simple justice. Bon. Vous nous avez fait subir, bon, vous pendant ce temps-là, vous aviez vos rations alimentaires, vous nous avez fait subir cette violence, mais maintenant c'est à votre tour d'en pâtir. Eh bien, non, il y a quelque chose qui est plus fort finalement que tout ce raisonnement. Bon, vous pourrez trouver, je pense, bien d'autres exemples de ça, mais c'est vraiment, c'est ça, être remué aux entrailles, être pris de pitié, enfin, plusieurs manières de traduire cette expression, mais qui est de l'ordre vraiment de l'émotion. Donc, et c'est ça qui fait, on peut dire, c'est pour ça que parabole est intéressante pour mon propos, c'est ça qui fait franchir la barrière de l'étrangèreté. Voilà. Le Samaritain, c'est aussi un étranger, je ne vais pas, évidemment, pas souligner ce point-là, mais ce qui fait franchir la barrière de l'étrangèreté. Voilà. C'est, pour dire, le degré zéro, enfin, le degré zéro pas au sens négatif, mais le degré le plus profond de l'humanité. Voilà. Comment se rejoindre au-delà de toutes les représentations, parce que, vous savez, quand on parle de rencontre, eh bien, qu'est-ce qui fait obstacle à la rencontre? Eh bien, c'est l'étrangèreté de l'autre. Même celui qui me ressemble, il y a toujours une différence, il y a toujours un peu autre. Alors, a fortiori, quand c'est quelqu'un qui a une autre couleur de peau, une autre culture, qui est impressionnant, qui est aux antipodes de mes idées, de mes convictions, qui est mon ennemi pour telle ou telle raison. Voilà, tous ces éléments d'étrangèreté, eh bien, qui sont réels, hein, il ne s'agit pas de les nier, évidemment, mais qu'est-ce qui va permettre de traverser cette frontière de l'étrangèreté? Qu'est-ce qui va permettre de traverser cette barrière d'étrangèreté? J'ai relevé cette phrase chez le philosophe Ivan Illich, qui commente dans un de ses livres le geste du Samaritain, où il voit dans le geste du Samaritain, finalement, le prolongement de l'incarnation. Ce qui est, voilà, Dieu qui s'incarne, c'est un Dieu qui va rejoindre le niveau le plus fondamental de l'humanité. Parce que, comme il dit, il ressent au creux de sa chair la chair de l'autre. Voilà, au creux de sa chair, il ressent la chair de l'autre. La chair comme étant ce qu'il y a de plus fondamental, finalement. Ressentir la chair de l'autre au creux de sa propre chair. Et que, voilà, aussi, on peut dire ça au niveau du... C'est peut-être aussi deux personnes qui sont rejetées, le Samaritain rejeté par les Juifs, l'homme blessé rejeté sur le bas-côté, eh bien c'est justement le fait d'avoir s'être débarrassés de ces représentations fait qu'ils peuvent peut-être plus facilement se rencontrer. Enfin, c'est l'humanité, voilà, l'humanité fondamentale qui se retrouve. Comment retrouver finalement, c'est ça tout l'enjeu qui n'est pas facile. Hein, comment, si l'on retrouve entre nous ce niveau d'humanité fondamentale, c'est là qu'une rencontre peut se produire. À travers toutes les représentations, encore une fois, sans forcément les nier, on ne peut pas les nier, mais en tout cas, il y a quelque chose de plus profond que toutes ces représentations. Voilà, donc à mon avis, c'est ça le sens de cette lecture de la parabole du Samaritain. Alors, le troisième temps donc, développe, on peut dire, ce point-là, en prenant des éléments que j'ai déjà indiqués, c'est-à-dire que, finalement, c'est l'invitation à l'ouverture, l'invitation à la rencontre, l'invitation au décentrement. Parce que tout l'enjeu, justement, c'est de se décentrer au profit de l'autre, sachant que nous avons... Enfin, nous sommes des êtres centrés. Je vais faire référence à des textes de Teilhard de Chardin, que je connais bien. Ce qui, finalement, dans un premier temps, nous fait humains, c'est d'exister par nous-mêmes. Prenons simplement, les exemples sont très simples, hein, très, très élémentaires. Le petit enfant, il est entièrement dépendant de ses parents, bon, et petit à petit, il acquiert sa personnalité propre. On peut dire qu'il se centre sur lui-même, il acquiert plus d'autonomie. Hein, c'est ce que Teilhard appelle, je dirais, la centration, le fait de se découvrir autonome, parlant en première personne, existant par soi-même. Mais le deuxième temps, bien sûr, si on veut exister vraiment, c'est là que je reviens à ce que je dis en commençant, le deuxième temps va consister justement à travers les relations à autrui, à se décentrer sur autrui. Voilà. Mais c'est une dialectique permanente. Hein, à la fois, j'existe par autrui, mais aussi j'existe moi-même. Hein, c'est pas le fait d'être décentré par autrui qui me fait disparaître profit d'autrui. Vous savez, c'est ça qui est difficile dans les relations, c'est que, bien sûr, le danger de la relation, le risque de relation, l'échec, plutôt le risque de l'échec de la relation, un premier risque, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme, se centrer sur soi-même. Les autres, je les réduis à moi, je les ramène à moi, ils n'existent que par moi. Ça, c'est vraiment l'égocentrisme. Pour Saint-Augustin, c'est le péché capital. La racine du péché, c'est l'égocentrisme. C'est de tout ramener à soi. Voilà, de ramener le monde à soi. Que l'humanité, justement, néglige la nature, ne la voit qu'à son propre profit. Mais je veux dire, le risque symétrique existe. C'est de vouloir disparaître dans l'autre. Ne plus exister par soi-même. Alors, c'est peut-être... Bon, sans faire de psychologie un peu artificielle, c'est peut-être plus rare, mais ça existe aussi. Hein. C'est une forme peut-être plus complexe d'égocentrisme, puisque finalement je me préserve, on peut dire, une petite intimité en abandonnant tout à l'autre. Finalement, je garde ce qu'il y a de plus indicible, mais finalement je reste centré. Et donc tout l'enjeu consiste précisément dans cette dialectique de centration et décentration. J'attends aussi de l'autre qu'il me donne d'exister moi-même. Je pense que je dirais quelques mots tout à l'heure sur le dialogue, mais c'est la parole qui est un bon critère de vérification. Dans quelle mesure je parle en première personne? Dans quelle mesure j'habite ma parole? Dans quelle mesure je peux parler en jeu? Voilà. Et pas répéter ce que j'entends, simplement. C'est souvent plus tentant, plutôt que de dire ce que je pense, de répéter ce qui vient d'être dit, l'opinion générale. Bon, comme ça, moi, je me dissous dans l'opinion générale. C'est plus confortable, mais on sent bien que c'est pas authentique, ce qui manque. Donc, voilà, parler en première personne, mais en même temps, ce qui me permet de parler, c'est aussi le dialogue. Enfin, c'est l'entrée en dialogue, c'est l'écoute. C'est ce double mouvement de parole et d'écoute. Donc, invitation au décentrement, voilà, culture de la rencontre, ce troisième temps, c'est finalement ça qui va être déployé. Alors, avec quelques exemples particuliers, donc, la relation aux pauvres, Heureusement, dans du texte, ça n'est pas important, comme auquel j'ai fait déjà allusion, hein, la relation au pauvre comme étant justement non pas le pauvre comme l'objet de ma charité, parce que c'est un peu ça le risque, hein, parce que tant que le pauvre reste l'objet de ma charité, bon, c'est très bien de l'aider caritativement, charitablement, mais tant que le pauvre reste un objet de ma charité, je sais manquer, tant qu'il ne devient pas vraiment sujet. Hein, et tout l'enjeu, justement, je pense au discours de ces mouvements populaires, c'est non pas agir pour, mais agir avec, hein, et faire en sorte que l'autre devienne acteur. Et ceci est vrai, donc. Et le pauvre, c'est-à-dire, c'est important parce que, là encore, c'est un critère de vérification. Hein, quel regard je porte, finalement, sur le pauvre, le pauvre économiquement, le pauvre culturellement, l'exclu, l'exploité, celui que je rejette, enfin voilà, toutes les personnes vers lesquelles je ne me sens pas spontanément porté à aller. Voilà. Et j'aurais tendance à rejeter. Alors ça, vous pouvez, faites votre liste personnellement, je ne vous demande pas de la partager. Chacun pourra faire sa liste personnelle, mais quelles sont justement les personnes ou les groupes que j'ai plutôt envie de laisser de côté. Voilà. Et donc, voilà, et tant que une relation n'est pas établie, ben, chose qui est manquante. Et quand, justement, tant que je ne suis pas capable de voir ce que ces personnes peuvent apporter de constructif à la société, quelque chose est manquant. Alors, enfin, c'est un peu utopique, hein, je sais bien que je suis premier à me rendre compte que tout ça n'est pas facile à mener dans la vie quotidienne, mais en tout cas, au moins, avoir cette préoccupation de se dire, oui, il y a quelque chose que, voilà, un horizon. Un horizon et peut-être un désir aussi de faire un pas en avant. Bon, alors, après ça, chacun choisit sa route, mais un pas en avant dans cette direction. Et ceci est vrai, donc, une fois, le pauvre en est un bon critère pour cela. Et on trouve ça aussi sur le plan politique, sur le plan économique. On pourra évidemment détailler cela, évidemment. On pourra revenir dessus tout à l'heure dans le temps de la discussion. Il y a évidemment un développement sur les migrants. Vous savez que c'est un souci du pape qui entraîne le souligne ce point-là. C'est pas, il y a quelques développements, c'est pas le cœur du propos, mais comme c'est un point de sensibilité, entre autres en France, actuellement, dans les débats. La société, et c'est souvent un point de critique à l'égard adressé au pape de la part de certaines personnes, le pape faisant l'apologie des migrations. Alors, ce n'est pas ce qu'il fait, justement, pour ne pas déformer son propos. Simplement, ce qu'il dit, c'est que ceux qui viennent, qui arrivent vers nous, étant dépourvus de tout, eh bien, nous avons le devoir de les accueillir. Voilà. C'est une première chose. Mais évidemment, il serait préférable qu'ils restent chez eux. La première chose, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il personne, enfin, sauf ceux qui aiment les voyages, mais je veux dire, la plupart des migrants auraient préféré rester chez eux, même sur le plan économique, bon. Mais parce qu'ils ont été d'une manière ou d'une autre contraints à quitter leur pays. Donc, évidemment, la première chose, c'est de souhaiter que les personnes restent chez elles. Mais, évidemment, une fois que, je dirais, si elles ont été, pour telle ou telle raison, quasiment obligées, alors, pour discuter, elles sont absolument obligées de partir, mais en tout cas, si elles se sentent obligées de quitter leur pays, eh bien, il y a un devoir d'hospitalité, un devoir d'aide à leur apporter. On ne peut pas trop vite, même si c'est compliqué, le pape reconnaît du reste que c'est pas simple et que ça pose un certain nombre de questions, mais en tout cas, là aussi, nous obliger à regarder ce qui se passe. Alors, regardez le phénomène. Et c'est vrai que c'est quand même frappant. Quand on voit le nombre non seulement de personnes, mais enfin de morts, ne serait-ce qu'à traverser la Méditerranée, on se dit, il y a quand même quelque chose qui se passe, on ne peut pas rester indifférent à ça. Même si la solution n'est pas simple, et moi, je n'ai certainement pas la prétention de donner une solution facile à cela, mais en tout cas, on ne peut pas simplement mettre des barrières et dire, ça ne nous concerne pas. Mais, oui, ça nous concerne. Là aussi, ça fait partie de la solidarité universelle. Encore une fois, la solidarité universelle, je dirais, bon, c'est bien gentil, mais on a notre propre problème, que ce soit au niveau des nations, au niveau des groupes, au niveau des individus. Bon, j'ai mes difficultés, je ne vais pas m'occuper de toutes les difficultés du monde. Oui, bien sûr, il y a un réalisme, ça le pape ne nierait pas. Hein. Je crois qu'il ne faut pas, il ne faut pas immédiatement tirer de son propos un programme politique, ce serait une erreur. C'est encore une fois un horizon qu'il propose, mais qui doit donner à réfléchir, se dire oui quand même, hein, quand même, oui, bien sûr. Bon, c'est un peu, si vous voulez, pour l'autre exemple qui me vient à l'esprit après la femme de Stalingrad, c'est la pauvre veuve de l'Évangile, hein, qui a donné deux piécettes, qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, c'est ça ce que dit Jésus. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, encore une fois, c'est une sainte, bon, nous ne sommes pas des saints, bien sûr, d'accord avec vous, je suis loin d'avoir donné tout ce que j'avais pour vivre. Mais néanmoins, garder devant les yeux cette image et se dire, ah, ça, bon, voilà, ça m'interroge, peut-être qu'un jour ou l'autre, eh bien, même si bon, j'ai mes propres préoccupations, mes propres soucis, eh ben, peut-être que c'est quand même préférable si je peux ouvrir les yeux sur autre chose. Donc, ce phénomène migratoire comme étant significatif, disons, là encore, d'un lieu de vérification. Dans quelle mesure ces phénomènes nous aident à vérifier qu'il n'y a de vie humaine accomplie que dans la solidarité universelle. Ultimement, il n'y a vraiment d'accomplissement que dans la solidarité universelle. Une fois, même si ça paraît très lointain, très utopique, un beau rêve, mais il y a quelque chose de ce genre-là, quoi. Alors, bien sûr, après ça, on peut le détailler, bon, comme il le fait, sur le plan de l'économie. Bon, c'est toujours pareil, il va reprendre la critique qu'il fait habituellement à une économie néolibérale qui ne repose que sur la compétition. Hein? Alors, bon, d'accord, la compétition, l'émulation, c'est pas sans intérêt, mais néanmoins, ce qui devrait quand même primer, c'est la coopération. Hein? Alors, la compétition, d'accord, mais la compétition au service du bien commun. Hein? Dans quelle mesure, alors, encore une fois, je ne suis pas économiste, je ne suis pas chef d'entreprise, je n'ai pas ce genre de responsabilité, mais moi, la question mérite d'être posée. Dans quelle mesure les outils que j'utilise sont vraiment au service du bien commun et pas au service du bien d'un groupe particulier? Bon, évidemment, si c'est bon, au moins certaines entreprises. Ben, le système néolibéral, depuis le début, je veux dire, est assez honnête. Hein, c'est la célèbre fable des abeilles, le texte du XVIIIe siècle, qui consiste à dire, finalement, l'égoïsme est préférable dans le long terme à la charité. Bon. On peut faire cette hypothèse. Est-ce qu'elle est vérifiée? C'est pas certain, loin de là. Mais c'est ce qui est dit, et c'est ce que certains disent, du reste pour justifier leur gain, c'est assez commode, et c'est ce qui se passe, de fait, hein, que l'entreprise, ben, elle est au service des bénéfices des actionnaires qui la possèdent. Voilà. Alors, on dira, oui, mais c'est pas si simple, d'accord. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a d'autres, pas seulement aujourd'hui, du reste d'autres conceptions, mais il y a quand même un peu ça dans la manière de faire néolibérale, que finalement, ce qui est bien, c'est le profit de quelques-uns. Voilà. Est-ce que le bien commun est assuré? Ça, c'est pas certain. Mon ami Gaël Giraud, que certains d'entre vous connaissent sans doute, lui, justement, en tant qu'économiste, réfléchit à un modèle économique qui privilégie, au contraire, la coopération et le commun. On travaille sur les communs, bon, pas dans ce sens-là. Quel est le système économique, parce qu'il ne s'agit pas de revenir à l'économie des chasseurs-cueilleurs, hein, mais quel est le système économique qui tienne la route, mais qui privilégie le commun, la coopération, la solidarité sur la seule compétition? Est-ce que c'est viable, voilà, économiquement, hein, bien, je vous renvoie à ces travaux sur lesquels je ne vais pas rester plus longtemps. Mais en tout cas, ça rejoint, je trouve, tout à fait le propos du pape ici, rappelant encore une fois que l'économie, ou la vie politique, enfin, tout ce qui est de cet ordre-là, n'a de sens qu'à être au service du bien commun. Alors, le quatrième temps, là j'avance pour rester un peu dans les délais, je ne sais plus quel était le délai imparti, mais enfin, on a jusqu'à quelle heure, en principe
ça serait bien vers moins 20 pour pouvoir après.
Ah oui, mais on s'arrête à quelle heure?
À
4h15. Non, très bien, c'est bon, alors c'est large. C'est large. Non, mais qu'on ait un bon temps de discussion. Je préfère à la limite avancer un peu vite sur certaines choses, qu'on puisse revenir. Non, j'en ai pas pour très longtemps maintenant, mais je terminerai avant moins 20, rassurez-vous, qu'on ait un bon moment de discussion. J'avais plus en tête l'heure finale. Donc les deux thèmes importants du dialogue et du pardon. Alors, j'ai déjà dit quelques choses là-dessus, mais je reviens sur ces éléments-là. L'abondance du dialogue, là je relève une série de verbes au numéro 198. C'est le début du reste, si je ne me trompe pas, c'est le début de cette partie, c'est la première... c'est ça, c'est la première phrase du sixième chapitre. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Intéressant de commencer par une série de verbes qui sont presque synonymes, mais qui disent, à mon sens, qui disent bien que c'est toute une démarche à opérer. C'est pas absolument évident. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, parler aussi, pas seulement s'écouter, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, voilà. C'est une recherche. Le dialogue n'est pas... c'est jamais évident, du reste, d'entrer en dialogue. On peut très bien parler du dialogue, parce qu'il y a une personne, une fois à table, dans une retraite, à la fin d'une retraite, qui me fait une... remarquable exposé sur le dialogue. Bon, j'ai pas pu en placer une. À la fin du repas, bon, c'est fini, on était au dessert. Elle s'est arrêtée, mais c'est temps de partir. Voilà, c'était un très bel exposé sur le dialogue. Bon. Mais le dialogue, vous voyez, c'est pas si facile, même soi-même, d'accepter d'entrer en dialogue. Ce qu'on peut très bien dire, oui, dialogue, on est d'accord, évidemment, sur le fait. Mais dans quelle mesure est-ce que nous vivons des vrais dialogues? Dans quelle mesure est-ce que nous... que très souvent, là aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, soit on parle tout le temps, soit on écoute tout le temps, mais le dialogue, c'est parler et écouter, c'est pas simplement... Enfin, écouter et parler, je sais pas dans quel ordre il faut mettre les éléments. Bien sûr, il faut quelqu'un qui commence à parler, mais ensuite, il faut aussi que les autres prennent la parole à leur tour, hein, et que l'enjeu du dialogue, c'est justement aussi de donner la parole à autrui. Pas ça, l'écouter, mais alors... Et c'est pas si facile de donner la parole, en particulier, justement, pour revenir à la question des pauvres, parce que les pauvres, c'est aussi ceux qui ont du mal à accéder à la parole. Soit parce qu'ils ont du mal à s'exprimer, soit parce que spontanément, ils n'ont pas les mots pour le dire, soit qu'ils se sentent minorés, soit, comment dire, méprisés. Bon, donc, ils ont du mal à accéder à la parole. Et si vous leur dites, maintenant, alors parlez. Vous avez un grand silence, vous voyez, il n'y a rien à dire. Ben non, c'est pas rien à dire, c'est justement comment permettre à la personne d'accéder à sa parole. C'est ça aussi, je veux dire, le préalable du dialogue, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Et on voit bien, si j'insiste sur cet élément-là, c'est que nous commençons une démarche synodale dans l'Église, et que la démarche synodale consiste précisément à donner la parole à tous, et toutes, et que ça, c'est pas si évident. C'est trop facile de dire, bon, je vais pas, t'es témoin de telle ou telle scène, je vais pas donner de détails, parce que c'est un évêque qui est impliqué, mais de dire, voyez, je donne la parole, la fait, personne ne la prend. Bon, et donc, c'est moi qui fait le topo, parce que, voilà. Ben oui, mais comment, justement, permettre aux personnes d'accéder à la parole? Et comment accepter aussi que ce soit au début anarchique? Parce que le premier temps, ça peut être le mutisme. Après là, ça peut être tout un tas de discours en tous les sens, bon, un peu anarchiques, qui peuvent aussi conforter les experts pour dire, voyez bien ces gens-là, que ça passe s'exprimer. Ben, justement, tout l'enjeu va être de permettre à chacun de s'exprimer tout en produisant quelque chose qui tienne la route quand même. C'est pas faire une sorte de catalogue, un inventaire à l'après-verse, ce qui n'est pas du tout facile. Là, à mon avis, le pape est très ambitieux d'avoir ouvert ce genre de démarche. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des stratégies de fermeture qui arrivent en cours de route, que les clercs, quels qu'ils soient du reste, pas forcément des religieux, que les clercs arrivent en disant « Écoutez, voilà, merci, je vous ai écouté, maintenant je vais rédiger la synthèse et à ma façon. » De faire en sorte que, oui, chacun se sente écouté. Et évidemment, il est clair que lorsque les personnes se sentent écoutées, elles se sentent actrices, et donc l'éventuel ressentiment qu'elles avaient au départ, eh bien, c'est dissipé. Et là, la communion se construit. Et là, je pense que l'enjeu aussi dans une telle démarche, c'est pas tant de produire des documents de synthèse, bon, très bien, mais c'est aussi de faire communion. Et si la parole a vraiment circulé, si un dialogue a vraiment pu se dire, si les personnes ont pu parler en première personne et dire vraiment ce qu'elle avait dans le cœur, alors à ce moment-là, eh bien, on pourra voir qu'on observera qu'une communion se construit. C'est ça aussi l'enjeu. Ce n'est pas tellement les documents, finalement, qui importent dans ce genre de démarche que ce que ça construit comme communauté, à tous les niveaux, paroisse, groupes divers. Bon. Voilà. Donc, la place du dialogue, la place de la relation, évidemment, on revient beaucoup là-dessus. Voilà. Je termine juste par une allusion. Vous savez, la notion de dialogue, elle se trouve au cœur de l'encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam. Premier encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, il disait... L'Église se fait dialogue. Voilà. Ce n'est pas simplement une affaire qu'on ajoute à la parole de l'Église, mais l'Église se fait dialogue. Donc, bien sûr, l'Église parle, Dieu sait si elle parle. L'Église parle, mais elle doit aussi écouter. Si on veut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait écoute, sinon ce n'est pas un vrai dialogue. Donc l'Église, implicitement, en mettant au cœur son dialogue, eh bien, vient la notion d'écoute. Et je cite deux expressions de l'Ecclesiam Suam qui me semblent caractéristiques, au numéro 80. Le rapport de l'Église avec le monde, sans se fermer à d'autres formes légitimes, peut mieux s'exprimer sous la forme d'un dialogue, et d'un dialogue non pas toujours le même, mais adapté au caractère de l'interlocuteur et aux circonstances de fait. Voilà, un dialogue adapté aux circonstances. Oui, forcément, parce qu'un dialogue, ça va être une écoute, et l'écoute, encore une fois, des circonstances. Donc, c'est toujours à remettre en chantier, évidemment. Et puis, l'autre point important, c'est que le dialogue a un fondement théologique. Le dialogue, ce n'est pas simplement un effet de mode. Parce qu'on peut dire, le dialogue, oui, bon, la modernité nous porte, au dialogue, etc., c'est à la mode. Bon, oui, d'accord, c'est tant mieux si c'est à la mode. Mais fondamentalement, le dialogue est une catégorie théologique. Et je cite encore une fois Paul VI. La révélation, qui est la relation surnaturelle que Dieu lui-même a pris l'initiative d'instaurer avec l'humanité, peut être représentée comme un dialogue dans lequel le Verbe de Dieu s'exprime par l'incarnation et ensuite par l'Évangile. Donc si l'Église est dialogue, c'est parce que Dieu est dialogue. Dialogue intra-trinitaire, si on veut, mais dialogue dans l'incarnation et l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile ? C'est une série de dialogues. Alors, il y a des dialogues, je pense à l'évangile de Jean, évidemment, c'est particulièrement net. Pensons au dialogue avec Nicodème et la Samaritaine. Bon, il y a des dialogues dans l'évangile, mais ces dialogues disent quelque chose de fondamental. Et dirait, presque jusqu'à dire que l'être de Jésus se révèle dans les dialogues qu'il a avec. La Samaritaine lui dit quelque chose de lui-même. Il se découvre lui-même dans les dialogues. Donc, aller jusqu'à dire, mais il faut y aller jusque-là, théologiquement c'est une thèse tout à fait tenable, que Dieu se découvre dans le dialogue. Dieu se révèle à lui-même dans le dialogue. C'est quand même assez fort. Donc vous voyez, cette notion de dialogue est une notion théologique fondamentale. C'est pas simplement, c'est évidemment surtout pas une sorte de stratégie missionnaire ou je ne sais pas quoi, d'apologétique, etc. C'est une catégorie théologique fondamentale. Alors, l'autre catégorie importante, c'est le pardon. Le pardon, évidemment, quand la relation a été brisée, interrompue, blessée, eh bien, la réconciliation est fondamentale. Là aussi, on ne peut pas simplement s'arrêter à la brisure de la relation, s'en contenter, chose qui manque. Il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à la réconciliation. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, quels sont les moyens ? Je pense à un exemple qui n'est pas dans l'encyclique, mais trouve très intéressant, qui se répand de plus en plus même dans nos pays, mais les Canadiens nous ont précédé, la justice restaurative. Restaurative ou restauratrice, mais il y a des traductions possibles. Qu'est-ce que, ça oui, c'est en quoi? C'est en fait une coutume qui vient de peuples, je crois, pacifiques. Comment c'est-à-dire quand un crime a été commis, eh bien, comment il faut que justice soit faite, que le coupable soit reconnu, bien sûr, et puni, mais on peut pas en rester là. Tant que la relation est brisée, il manque quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que la réconciliation se fasse entre l'agresseur et l'agressé? Alors, quand c'est un meurtre, c'est plus difficile, mais bon, mais ça va être la famille. Bon, c'est pas évidemment facile, bon, il y a des procédures, des méthodologies très, très élaborées, c'est pas quelque chose qui ne suit pas dire malheureusement, si vous avez vu le film Grâce à Dieu, il ne suffit pas de mettre l'abuseur et l'abusé en face pour dire maintenant réconciliez-vous. C'est toute une démarche complexe à mettre en œuvre, mais néanmoins, voilà, il y a un enjeu. Moi, si on peut percevoir qu'il y a un enjeu important à aller en cette direction et de voir quels sont les bons moyens pour le faire, on aura déjà avancé d'un pas. Donc, comment faire en sorte que la spirale de la vengeance, parce que la relation brisée entraîne forcément un ressentiment, un désir de vengeance, enfin quelque chose qui vous travaille. Et comme dit le pape, il ne s'agit surtout pas d'oublier. On ne peut pas oublier. Là, je repense au livre, l'article de un autre confrère jésuite, mais bon, on prend les exemples qu'on peut, qui est Patrick Goujon, qui a fait un entretien dans l'étude le mois dernier, qui a un livre qui est sorti récemment, donc qui a été abusé pendant plusieurs années par un prêtre dans son enfance, qui est devenu religieux, jésuite, bon, et qui a eu très longtemps d'énormes problèmes de dos, que le médecin était incapable de... Enfin, pouvait, à coup de calmant... calmer les choses, mais justement, on peut y remédier. Et en fait, il avait quasiment oublié ce qui était arrivé. Il voulait oublier. Mais le corps, lui, n'avait pas oublié. Et lui, il s'est rendu compte qu'effectivement, ça lui est revenu, il a fallu qu'il se rappelle ce qui est arrivé. Donc, revivre tout cela, et c'est à ce moment-là que le corps s'en est porté mieux, évidemment. Ce qui montre bien que, non seulement l'oubli ne règle rien, mais il peut avoir des conséquences problématiques par ailleurs. On ne peut pas oublier. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon n'est pas non plus un déni de justice. Il faut que justice se fasse. Il faut identifier les choses. Les faits doivent être identifiés. Mais justement, le pardon, c'est ce qui va au-delà. C'est ce qui, encore une fois, peut rejoindre la personne dans son humanité la plus fondamentale. Je pense qu'une bonne définition du pardon, enfin une introduction au pardon, c'est la phrase de Ricoeur, « Tu vaux mieux que tes actes. » Voilà. « Tu vaux mieux que tes actes. » Il y a ce que tu as fait, tu es un criminel, tu as commis un crime, pardon, justement. Tu as commis un crime, mais tu n'es pas un criminel. Au sens criminel, ce serait une identité. Il y a en toi quelque chose qui est plus profond que le crime que tu as fait, aussi grave soit-il. Alors, encore une fois, après ça, comment faire concrètement, c'est pas facile, mais essayer de retrouver ce niveau le plus fondamental d'humanité, quand c'est possible. Quand c'est possible, et le pape dit à un moment donné que quelqu'un qui ne peut pas pardonner, on peut le comprendre. Il ne s'agit pas de juger quelqu'un qui dit « je ne peux pas pardonner », pas de dire « tu devrais pardonner ». Non, on ne peut pas pardonner, voilà. Bon, on n'a pas à le juger. Voilà. On peut espérer simplement qu'un jour il pourra pardonner, mais pour l'instant, le pardon est une grâce. Le pardon est donné. La capacité de pardonner plutôt est donnée. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est fondamental, c'est cet horizon de réconciliation sans lequel aucune vie humaine authentique n'est possible. Je pense aussi à la phrase de Jésus sur sa croix, « Père, pardonne-leur ». Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Même ceux qui veulent rompre la relation, Moi, je désire rester en relation avec eux. Voilà. Je ne les rejette pas. Je ne les rejette pas de l'humanité. Même ceux qui me mettent à mort, je ne les rejette pas de l'humanité. Parce que, je ne peux pas vivre sans eux, de toute façon. C'est facile de dire, ils me rejettent, je le rejette, et comme ça, au moins, tout le monde est chez soi, et les vaches seront bien gardées. Non, justement, il manquera quelque chose. Et puis, encore une fois, tout le monde ne se sent pas, évidemment, porté à dire ça dans les circonstances. Ça, il n'y a pas de jugement à porter sur ceux qui ne le font pas. Mais, en tout cas c'est ça qui est important. Je viens d'une expression de Michel de Certeau qui m'avait beaucoup marqué à l'époque sur le martyr. Enfin, le martyr chrétien, c'est pas celui qui est mis à mort pour une idée, c'est celui qui mis à mort ne veut pas la mort de celui qui le met à mort. Voilà. C'est ça qui fait le caractère chrétien du martyr. Des gens qui meurent pour des idées, ça il y en a beaucoup, et pas forcément pour des bonnes idées. Donc c'est pas le fait de mourir pour une idée qui rend bonne l'idée. Hein. Les exemples sont multiples dans l'histoire et récemment, donc pas la peine d'insister là-dessus. Mais en revanche, ce qui fait le caractère chrétien du martyr, c'est justement le fait de ne pas vouloir la mort de mon bourreau. Voilà. Ce qui évidemment n'est pas du tout évident. Je termine le cinquième point, donc sur le fondement transcendant de la fraternité, évidemment, bon, c'est, je veux dire, évident. Qui dit fraternité dit paternité. Hein, ce qui justifie la fraternité, c'est le Père commun. Donc c'est, oui, un fondement transcendant, c'est-à-dire, s'il n'y a pas, évidemment, cette référence transcendante, ben, la fraternité n'est pas simplement le fruit d'un raisonnement. Même si on peut éprouver ce désir, hein, j'avais commencé comme ça, même si on peut éprouver ce désir de rassemblement, de solidarité, de communion, etc., il y a quand même un moment donné, il faudra reconnaître que la source est en dehors de nous. Que c'est du reste que avancer dans la fraternité, ça nous est donné d'ailleurs, ça nous est donné d'un autre. C'est pas uniquement avec nos propres forces que l'on peut avancer vers la fraternité et s'instaurer. Donc il y a, c'est là que justement le pape insiste aussi sur le rôle des religions dans la fraternité. Ce à quoi je n'ai pas encore fait allusion et ce qui aussi avait entraîné des discussions, c'est que il s'appuie en particulier sur le dialogue qu'il a eu avec le grand imam d'Al-Azhar, la grande mosquée du Caire, Ahmad al-Tayeb, citant justement voilà un exemple de dialogue, voilà un dialogue en vérité qui me fait dire que, voilà, au-delà de nos différences, il ne nie pas les différences, évidemment, je ne sais pas ici, l'apologie de l'islam en général, c'est une question vraiment trop théorique, c'est un dialogue de personne à personne, mais un dialogue de personne à personne qui a permis de rejoindre ce niveau d'humanité, d'une humanité éclairée par une dimension transcendante. Donc, c'est aussi important de montrer à travers ce texte que les religions ne sont pas nécessairement un facteur de division. Ça peut paraître peut-être banal de dire ça comme ça, mais c'est que pour l'opinion publique, souvent, les religions apparaissent comme étant facteur de division. Et bien connaître qu'il y a des bonnes raisons à ça. Mais aussi, il y a des bonnes raisons, et il faut mettre ça en valeur, en quoi le dialogue interreligieux, peut-être pas forcément un dialogue théologique abstrait qui peut porter, peut être discuté, mais en tout cas, les rencontres interpersonnelles, les rencontres de personnes religieuses, spirituelles, enfin, sensibles à cette dimension de transcendance, eh bien que ces rencontres sont porteuses de fraternité et de communion potentielle. Alors que c'est ça qui est visé par là. Pas simplement, pour ça que le texte, même s'il cite l'Écriture, ne fait pas énormément référence à la tradition chrétienne, mais pour montrer que d'autres traditions religieuses peuvent développer les mêmes éléments. On peut se retrouver sur ce terrain commun. Enfin, en tout cas, disons, l'identité religieuse ne soit pas au détriment de la fraternité universelle. Voilà, c'est ça l'essentiel. Je vais terminer juste par une petite allusion à un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est Michel Dujarrier. Je ne sais pas si dans la bibliothèque vous avez ces trois volumes sur la fraternité. C'est un théologien qui a... mais vous pourrez les acquérir. C'est un théologien qui a travaillé sur les premières communautés chrétiennes et qui a montré, qui a démontré que le mot de fraternité, en grec adelphotes, était une originalité chrétienne. Et que les premières communautés chrétiennes étaient les premiers groupes à se qualifier comme fraternité, précisément. Vocable qui n'existait pas ailleurs, dans les communautés religieuses ou non dans l'Antiquité, il y en a beaucoup, hein, mais la fraternité était quelque chose de typique, et aussi, évidemment, l'insistance aussi, la désignation du Christ frère, le Christ comme notre frère. Alors, bon, on est habitué à ça, hein, c'est pas, mais à la limite, plus de sensibilité dans les textes, en travaillant sur les textes du Père, ou dans les textes liturgiques, etc., plus de sensibilité justement à cette fraternité, à la limite qu'à la paternité divine. C'est-à-dire, Dieu se présente plus spontanément à nous sous le trait du frère que du Père. Alors, c'est pas antinomique, hein, c'est pas d'opposer le Père et le frère, mais peut-être que là aussi on a un peu négligé cet élément-là. On avait peut-être une conception un peu trop verticale de Dieu, on dirait en donnant, si caricaturalement, 100% la divinité au Père et puis 80% au Fils, ou même 50%, parce quand on dit Dieu et homme, ça ne veut pas dire qu'il est moitié Dieu, moitié homme, ça veut dire qu'il est totalement Dieu et totalement homme, ce qui est quand même impossible à concevoir, à reconnaître. Hein. Tellement impossible qu'en fait, on n'a pas réalisé ce que c'est. On ne peut pas réaliser ce que c'est que l'incarnation, ce n'est pas possible. En général, c'est bon. Spontanément, enfin, dans nos imaginaires, c'est un Dieu en apparence humaine, ou un homme excellent, bon, alors, oui, qui est proche de Dieu, mais enfin, c'est un homme, c'est pas Dieu. Voilà. Mais à la fois, et entièrement Dieu, entièrement homme, c'est le Concile de Chalcédoine, impossible à réaliser. Or, justement, ce que nous dit cela, c'est que Dieu est, je veux dire, autant frère que père, de ce point de vue-là. Voilà, je termine sur cette envolée théologique.